Bonjour, vous écoutez Radio Zinzine, l'émission Les calottes sont cuites. Aujourd'hui, le climat et présidentielle 2022 avec Audrey Garic, journaliste rédactrice chez Le Monde. Donc, bonjour Audrey Garic.
Bonjour.
Donc, vous avez écrit un article dans Le Monde le 14 mars passé, qui était axé donc, sur le climat et les présidentielles de 2022. On peut peut-être commencer par parler des points essentiels des programmes, des différents programmes présentés par les différents candidats et ce que vous avez souligné dans cet article fort intéressant. Sur quels points ils ressortent de chacun des programmes par rapport au climat.
Oui, alors en fait, j'ai travaillé avec mon collègue Stéphane Mondard et on a à la fois examiné tous les programmes en ligne, aussi les réponses des candidats à des questionnaires d'ONG ou de think tank, notamment parce qu'au moment où on a fait cette enquête, il n'y avait pas encore le programme détaillé ni de Valérie Pécresse, ni le programme annoncé d'Emmanuel Macron. Et on a aussi contacté les équipes des candidats. Et donc, au final, on voit trois choses. Quoi. Une chose principale, c'est qu'il y a vraiment une ligne de fracture sur le climat entre la gauche et la droite, et la gauche à l'exception malgré tout de Fabien Roussel qui défend beaucoup de mesures en faveur de l'environnement, mais avec parfois un discours qui est plus emprunté à celui de la droite sur l'écologie punitive et avec des mesures qui diffèrent sur certains points sur le nucléaire ou sur la viande par exemple. Mais sinon, il y a cette ligne fracture droite-gauche qui est encore plus claire qu'auparavant. Et après, si on doit résumer très brièvement, on observe que finalement, c'est surtout les candidats de gauche, donc en l'occurrence Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et dans une moindre mesure Anne Hidalgo, qui ont des mesures ambitieuses, précises, détaillées, chiffrées pour faciliter la transition écologique et pour le climat. Les candidats Emmanuel Macron et Valérie Pécresse ont des mesures aussi, mais moins nombreuses, moins détaillées, moins chiffrées et qui, selon les ONG, notamment du réseau Action Climat, ne seront pas suffisantes pour atteindre nos objectifs climatiques. Et enfin, que l'extrême droite, donc là, en l'occurrence, on aurait des Marine Le Pen et Éric Zemmour, eux ne proposent quasiment rien en faveur de la lutte contre le changement climatique et n'ont pas non plus de budget climat. Et c'est très, très pauvre dans leurs propositions.
D'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'on ne peut pas se demander si le fait que l'extrême droite, pour quelle raison l'extrême droite est si fermée sur le sujet, alors qu'on sait que c'est quand même une nécessité urgente, sinon parce que par démagogie, par rapport à une partie de sa clientèle politique qui est peut-être plus démunie par rapport à d'autres, ou en tout cas au moins psychologiquement, pour entreprendre une transition, ou en tout cas pour se faire à cette idée, quoi.
Oui, si effectivement il y a une partie de l'électorat populaire qui vote à l'extrême droite, c'est pas une préoccupation première sans doute pour une partie de cet électorat, l'écologie. Donc j'imagine que l'extrême droite se dit que mettre en avant ce thème, ça ne va pas être porteur, ça ne va pas ramener des voix. Et puis il y a aussi leur opposition féroce sur l'énergie, en tout cas et la production d'électricité à l'éolien. Du coup, beaucoup de mesures sont contre l'éolien, contre les énergies renouvelables et les éoliennes en particulier. Et après, il y a quand même des mesures sur l'agriculture, mais là, pour relancer la production agricole, pour avoir plus de bio et plus de production locale. Mais pas, non, c'est effectivement, c'est pas du tout un thème important. Et lors de la campagne, Éric Zemmour avait aussi dit que pour lui, de toute façon, le problème majeur n'est pas du tout le problème climatique, puisque la France pèse 1% des émissions mondiales de CO2. Et donc voilà, donc ça montre bien que c'est pas un sujet, donc il n'y a pas besoin de faire des propositions, puisqu'à ses yeux, c'est pas un sujet. Or, on sait que voilà, le poids de la France est plus important que ça si on inclut les émissions importées, si on inclut la responsabilité historique et qu'on a les moyens de lutter contre le changement climatique. Et de toute façon, la France a des objectifs climatiques comme tous les pays qu'elle doit respecter.
Ouais.
Alors, vous l'avez abordé aussi rapidement. Donc, il y a la question du nucléaire, il y a la question de la transition écologique. Vous avez parlé rapidement de l'agriculture. Mais donc, ça passe par différents thèmes, hein, donc le transport, le ferroviaire, l'agriculture. Est-ce qu'on peut voir ça rapidement?
Oui. Alors, les différents thèmes qu'on a abordés, effectivement, on a pris les quatre principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Donc le principal secteur, c'est les transports, puisque c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, sur ce sujet, en fait, il y a un point majeur qui en ressort, c'est que donc le consensus, c'est le fait d'électrifier le parc automobile. À peu près tous les candidats sont favorables à avoir, ça dépend des candidats, mais beaucoup plus d'aller plus vite sur l'électrification, d'installer beaucoup de bornes électriques, etc. Après, il y a ce qui différencie les candidats, c'est la sortie des véhicules thermiques, essence et diesel, et à quelle date. Donc là, Yannick Jadot, c'est le seul qui veut mettre fin à la vente des véhicules thermiques dès 2030. Pour l'instant, la loi prévoit 2040, tandis que Valérie Pécresse, elle parle de 2040 pour tous les véhicules, y compris hybrides, et 2035 pour ceux qui ne sont pas hybrides. Emmanuel Macron, il est sur 2040. Et là, pour le coup, l'extrême droite n'en parle pas. Donc ça, c'est là, il y a une différence entre écologistes et Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et on a Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Fabien Roussel aussi qui s'expriment pas sur la fin de vente des véhicules thermiques de manière explicite. On voit que sans doute, effectivement, c'est quelque chose de délicat quand on sait que la voiture est indispensable pour la majorité des gens hors des villes et que c'est très compliqué de s'en passer, pour ne pas dire impossible. Donc voilà, ils n'abordent pas ce sujet tant qu'on n'a pas proposé d'alternative à la voiture. Et dans les candidats, sur les transports, on a tous les candidats, voilà, encore beaucoup de choses autour de la voiture. On voit que c'est central, mais propose quand même des mesures sur d'autres modes de transport pour développer les transports en commun. Ça, c'est très répandu. Le vélo aussi, il y a beaucoup de propositions. Aussi d'investir massivement dans le ferroviaire. Et il n'y a que Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui proposent d'interdire les avions, en tout cas, quand il y a une alternative en train qui est possible pour des trajets de moins de 4 heures. Et Yannick Jadot qui veut aussi taxer les vols internationaux. Donc voilà, ça c'est pour les principales. Oui.
Oui, là-dessus, Jadot, c'est pas étonnant, c'est comment dire, sa culture d'écologiste. De la part de Mélenchon, c'est plus agréablement surprenant, on peut dire, non, parce qu'il y a ce clivage un peu traditionnel entre les cultures politiques plutôt de lutte de classe, de la question sociale, et puis l'émergence de la culture écologiste. C'est pas toujours facile de les conjuguer. On dirait qu'ils arrivent bien à le faire à ce niveau-là, à France Insoumise.
Oui, ils ont un programme en tout cas qui mélange totalement la question de la justice climatique, la justice sociale, les deux impératifs. Il y a des propositions très ambitieuses pour le climat qui sont toujours accompagnées au niveau social pour les personnes qui ont le moins de moyens et qui vont être le plus touchées par la crise climatique. Et tout ça, il le permet, Jean-Luc Mélenchon l'assure par une planification écologique qu'il a imaginé pour permettre justement de faire cette transition écologique, mais sans affecter les plus démunis et en permettant à tous de par exemple d'avoir des formations pour changer de secteur, pour pas de perdre d'emploi, pour être accompagné. Donc tout ça, il l'a vraiment prévu. Et après, effectivement, je pense que là, il a saisi, en tout cas, même depuis 2017, à quel point il y a une urgence écologique et que pour par exemple, les vols, il n'y a pas de raison de laisser des vols quand il y a des alternatives en train, d'autant qu'on sait que l'avion, c'est essentiellement les plus riches qui le prennent. Donc ça rentre dans une perspective de à la fois lutter contre la crise climatique et aussi pour plus de justice sociale.
Et il y a la fuite en avant du nucléaire aussi dans ce contexte donc, où on doit réduire les gaz à effet de serre et où fatalement, pour beaucoup, ça renforce l'argument pro-nucléaire. Sauf qu'on voit que tout ça dépend du contexte, comme vous le dites à la fin aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup de paramètres dans des prises de parole politiques. Et là-dessus, il y a l'affaire de l'Ukraine qui nous tombe dessus. Et à sa manière, l'affaire de l'Ukraine, elle pose aussi le risque nucléaire. Donc, ça fait un peu comme un aller-retour à ce niveau.
Oui, quelle est la question du coup?
Eh bien, c'est qu'en fait, on voit que les prises de position, il faut être toujours sur le curseur des sondages ou comment dire, ou de l'état de l'opinion qui elle-même dépend des situations et que. Ça fait drôle ce zigzag parce que d'abord la fuite en avant nucléaire c'est quand même une fuite en avant puisque je crois que vous le dites hein, au passage il y a quand même les gros problèmes qui sont pas résolus de déchets et puis le risque qu'on sait que ça représente quoi et ensuite ben cette fuite en avant elle est elle-même prise à rebours par l'imprévu ukrainien quoi
Oui,
qui à sa
là,
manière
bah, là,
nous
là, la
oblige.
guerre en... Oui, la guerre en Ukraine nous montre à la fois notre problème de dépendance aux énergies fossiles, qui est un problème climatique et qui devient un problème économique et géopolitique, et effectivement le fait qu'il y a aussi un problème de sûreté pour les centrales nucléaires. Et là, les positions des candidats, malgré tout, malgré la guerre en Ukraine, restent quand même majoritairement pour le nucléaire, pour la relance du nucléaire, qui sont donc celles de à la fois Fabien Roussel et Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc tous les quatre sont favorables à une relance importante du nucléaire, avec souvent la construction de 6 EPR, 6 nouveaux EPR, voire davantage.
Ah oui, Zemmour, c'est
Et
carrément le gros lot à ce niveau-là.
là, 14 EPR, oui, pour Éric Zemmour. Et après, il y a seulement le reste de la gauche et des écologistes, donc Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui restent sur leur position, qui est de sortir du nucléaire. Et le seul à donner une date avec des chiffres précis, c'est Yannick Jadot, puisqu'il dit qu'il voudrait sortir, en tout cas, pardon, arrêter une dizaine de réacteurs nucléaires d'ici à 2035, à mesure que d'autres sources d'énergie sont raccordées au réseau. Et les autres, en revanche, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, c'est moins précis. C'est vraiment sortir progressivement pour arriver à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Et donc, la sortie du nucléaire se ferait aussi à mesure en fait, on développe les énergies renouvelables donc de manière progressive. Donc là, en tout cas, il y a un clivage sur le nucléaire qui est assez net aussi. Oui.
Ok, donc du coup, c'est vrai qu'il y a donc des points qui sont plus ou moins précis. Et si on va sur, comme vous dites, le nerf de la guerre, donc le financement,
Ouais.
est-ce qu'il y a des choses qui sont concrètes?
Il y a du concret chez trois candidats, essentiellement Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, et ensuite aussi Anne Hidalgo, qui ont proposé des investissements massifs pour la transition écologique. On sait qu'il va falloir investir beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement pour la transition écologique. C'est chiffré par des think tanks, notamment l'Institut d'économie pour le climat. Et donc voilà, là, c'est Mélenchon qui propose 45 milliards de plus par an pour la transition écologique. Yannick Jadot 25 milliards et Anne Hidalgo 14. Et là, il y a une grosse différence avec la droite et Valérie Pécresse qui ne les chiffre pas. En fait, c'est les investissements supplémentaires qui seront nécessaires pour la transition écologique. Elle veut faire appel à l'épargne privée, à l'investissement privé aussi, mais surtout à l'épargne privée. et notamment en fusionnant le livret A et le livret de développement durable. Elle veut créer un grand livret vert et elle dit que du coup, ça permettrait de rassembler 120 milliards pour la transition écologique par an supplémentaire. Après, pour l'Institut de l'économie pour le climat, ben, c'est le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie que cet argent qui existe déjà, ce n'est pas du nouvel argent, permette bien de financer la transition et que, par exemple, pour la rénovation des bâtiments, on sait que l'épargne privée n'est pas suffisante, soit qu'une partie de la population n'a pas l'argent tout simplement pour le financer et une autre partie de la population qui a l'argent n'a pas envie de rénover son logement, donc ça ne fonctionne pas. Mais l'Institut de l'économie pour le climat disait aussi, pour le coup, pour les investissements massifs proposés par les trois candidats de gauche et écologistes, qu'il fallait voir, ça pouvait aussi créer des problèmes d'acceptabilité de financer autant. Donc voilà, il soulignait juste les différences d'approche entre les deux et en précisant aussi que l'extrême droite n'a pas de budget détaillé et n'indique pas comment ils comptent parvenir à financer leurs mesures.
Bah, peut-être que le mot de la fin pourrait être sur la justice sociale, puisque finalement, il y a eu aussi le deuxième volet du rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, et il y a un lien quand même direct à faire, puisqu'il était très centré justement sur cette injustice climatique qui touche bien plus les gens qui sont plus vulnérables et moins bien nantis. Donc est-ce qu'il y a des différences entre justement cette justice climatique, est-ce qu'elle est prise en compte dans différents programmes par rapport au climat ?
Elle est très présente chez Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, qui en parle tout le temps, en fait. Hein, chaque fois qu'il y a des mesures qui vont toucher les plus vulnérables, il y a la précision qu'il y a une mesure d'accompagnement. Après, il y a quand même des mesures, non, chez pas mal de candidats, ça dépend des secteurs, en fait, parce que, par exemple, Fabien Roussel, pour le PCF aussi, avoir des transports par exemple gratuits, transports en commun gratuits pour tous. Il y a aussi Marine Le Pen qui propose ça.
Pour le transport urbain.
Oui, urbain, oui. Valérie Pécresse a aussi quelques mesures d'accompagnement et puis elle va avoir un bonus écologique et une prime à la conversion des véhicules thermiques vers électriques qui soit plus importante. Donc il y a quelques mesures comme ça dans tous les programmes, moi, je trouve. Et je pense que cet aspect est présent. Après, il irrigue vraiment les programmes de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. C'est là où je vois une différence. À quel point il est beaucoup plus présent.
Eh bien, il nous reste à vous remercier, Audrey Garic. Merci d'avoir passé un peu de temps, parce que vous êtes pas mal à la bourre. Je crois qu'on va s'arrêter là maintenant.
Merci.
Et à la prochaine occasion.
Ouais, d'accord.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
écoutez la 13e émission des Calottes sont cuites, Climat et présidentiel 2022. Nous étions avec la journaliste Audrey Garic. Vous avez aussi sans doute reconnu la voix d'Alex qui nous accompagnait aujourd'hui. La musique était du film Don't Look Up.